Jacques Adi, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM
et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
Vous êtes bien sur Jacques Adi, nous voici dans l'émission Marque Page, celle qui rassemble les fans de lecture.
Émission qu'on attend presque tous. Et oui, me revoilà.
Eh ben, on est content de te retrouver, Ethan. On espère que cette fois-ci, tu auras un peu plus de culture à nous proposer. Dans cette nouvelle édition de Marque Page, nous allons traiter quantité de sujets, comme les différentes pratiques de lecture, les dystopies et la réalité, lire l'histoire, mais surtout le sujet qui rend fou nos jeunes lecteurs, depuis peu, qui n'est d'autre que l'accès aux livres et la réforme sur le pass culture. Puis nous finirons avec la présentation de la fête du livre et notre sortie au Havre à la librairie La Galerne.
Marque-page, l'émission qui interroge notre rapport au livre et à la lecture.
Nous allons commencer de façon décontractée par un sketch. On sait bien que l'humour permet de réfléchir. Vous savez, chers auditeurs, qu'en effet, que tous les lecteurs n'utilisent plus nécessairement aujourd'hui le format papier.
Hey Jules, comment ça va aujourd'hui? Dis-moi ce qu'on fait en français aujourd'hui là.
Bah écoute, je pense qu'on fait toujours la même chose. Hein. On fait encore et toujours notre séquence sur Gargantua.
Oh, c'est pas possible. J'en peux plus de Rabelais. La prof dit toujours qu'il y a quelque chose à creuser dans un texte, mais alors celui-ci, on n'y trouvera pas une pépite d'or. Et puis j'ai oublié le livre en plus.
Bon après c'est Gaspard, je pense que la prof elle fait de son mieux. Hein. Tu sais, attirer autant d'élèves, 36 élèves même, ça doit vraiment être compliqué, d'autant plus qu'on étudie ça.
Ah ouais? En plus avec ces histoires de pipi caca dans Gargantua, un coup il se torche le cul, après il pisse sur Paris. Je vois vraiment pas où elle trouve l'inspiration la prof, pour nous sortir des métaphores et tous ces trucs là.
Ça se voit qu'elle veut bien faire, et de toute façon elle est obligée avec les livres que l'éducation nationale nous propose aux professeurs. Mais là regarde, elle se bat contre un adversaire qui n'existe même pas. On veut juste avoir notre bac de français nous.
Oh oui, tout le temps elle me perd lorsqu'elle nous dit « Allez, allez, jeunes gens, approfondissez le texte, vivez-le comme si c'était le dernier, comprenez les personnages comme s'ils étaient de votre propre famille et assurez-en sa transmission. » Et elle adore les livres, le papier.
De toute façon, tu peux à coup sûr parier que ces phrases viennent de Victor Hugo, comme quand elle dit « N'oubliez pas, jeunes gens, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. »
Oh bah ça, pour être inspiré de Victor Hugo, elle l'est. Rien que d'en parler, elle a des petites larmes qui coulent le long de sa joue. Tous ces espoirs de nous faire lire renaissent quand quelqu'un parle de Zola. Alors bon...
Oui, c'est vrai. Et au final, elle veut juste nous enseigner ce qu'il y a de plus beau pour elle, c'est-à-dire la littérature. Mais les livres de 300 pages écrits, il y en a ras-le-bol.
Je vois ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un décalage entre elle et nous. Les jeunes d'il y a 30 ans ne sont plus les mêmes que ceux de nos jours.
Ouais, t'as raison. Mais écoute, Gaspard, j'ai une idée. Et si pour une fois, on lisait ce que la prof nous donne à lire? Elle sera super contente quand elle verra que tout le monde a lu le livre. Et ça lui fera des souvenirs pour la retraite au beau milieu de ses livres, en format papier bien sûr.
Moi avec tout ça, j'imagine sa maison comme une librairie, avec des beaux tableaux de Botticelli, un buste de Maupassant ou de Flaubert, et des tonnes de papier partout.
On espère que la prof de Jules et Gaspard nous écoutent. Nous allons donc maintenant évoquer de nouvelles pratiques de lecture. Commençons tout de suite avec David. Pour notre première partie, notre chroniqueur va nous expliquer ce qu'est le scan manga et pourquoi lire de cette façon.
Alors bonjour, donc moi je vous parlais donc des scans. Donc les scans, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un manga ou un format papier de lecture qui a été numérisé et traduit par des fans depuis sa langue originelle vers une autre langue. Donc c'est fait par les fans pour les fans. On peut se dire pourquoi on peut faire ça. Donc déjà c'est pour être à jour quand un manga sort semaine par semaine, pour pas louper les actus, se faire spoiler ou être à jour dans les théories des fans ou quoi que ce soit. Ça permet de garder un contact assez hebdomadaire ou mensuel selon ce qu'on lit avec l'œuvre. Et ça permet aussi de lire sans trop dépenser, surtout pour les mangas qui sont des séries assez longues. On peut en découvrir sans se priver et donc aussi lire de tout. Après forcément, les sites en général ils ne sont pas très légaux, même s'il y a des plateformes légales mais qui sont payantes donc au final ne donnent pas vraiment de concurrence. Mais il n'y a pas vraiment d'effet négatif sur les ventes en format papier. Ça, c'est les éditeurs au Japon qui l'ont dit. Car même si quelqu'un lit des scans, il va quand même vouloir acheter la version papier. Car dans un manga, on va avoir des bonus, des infos sur l'œuvre ou autre chose. Et du coup, seuls les scans payants et donc légal en payent les conséquences. Après, on peut lire pas que des mangas. On peut lire des webtoons par exemple. Donc les mangas, ça va être semaine par semaine et il y a tout un cheminement. C'est surtout parce que, comme au Japon, c'est un chapitre par semaine et on n'a pas ce système-là et nous, c'est un tome tous les 3 mois qui compile donc 10 chapitres. Pour se mettre à jour, il y a les scans qui permettent d'être autant à jour que les gens au Japon mais on peut aussi lire par exemple des comics.
Merci David pour cette chronique enrichissante. Passons à Chloé qui va nous parler d'une application que nous connaissons que trop bien, Wattpad.
Alors bonjour à tous, donc Wattpad est une application qui a ouvert en 2006, c'est donc une vieille application qui a quasiment 20 ans et qui au fil des ans a gagné en nombre d'abonnés, atteignant en 2019 plus de 70 millions d'utilisateurs, un nombre qui ne fait que croître depuis notamment la pandémie de Covid-19, avec en 2021 90 millions d'utilisateurs mensuels. L'objectif de Wattpad est d'ouvrir la lecture et l'écriture à tous et d'augmenter par ailleurs les relations écrivain-lecteur. Actuellement, on compte chaque mois plus de 20 millions de commentaires postés sur la plateforme. Il y a 2 ans, j'ai fait ma curieuse et j'ai installé l'application Wattpad sur mon téléphone et je dois avouer que je suis encore adepte de cette application. Cependant, bien que je lis sur cette application, je ne suis pas ici pour vous en faire son éloge. Comme chaque application, elle a ses défauts et ses avantages. Pour ma part, il y a 2 ans, j'y voyais de nombreux avantages. Tout d'abord, il est indéniable qu'il y a sur cette plateforme un nombre incalculable de livres de tout genre qui sont pour 90% en accès gratuitement. Je tiens également à souligner que certaines histoires d'ailleurs sont extrêmement bien écrites et ont fait le sujet d'une réelle réflexion de la part de l'auteur. Cependant, une réelle question se pose lorsque l'on découvre que Wattpad n'est pas modéré. En effet, tout le monde peut poster ce qu'il veut et la seule personne pouvant supprimer des commentaires est l'auteur, qui ferme souvent les yeux ou est parfois victime de critiques. Avec cette absence de modération, toutes les histoires publiées sur Wattpad sont accessibles pour tous. C'est à la charge de l'auteur de qualifier son histoire de mature ou pas, donc accessible pour les 18 ans ou pas. C'est ce qui pose des questions sur la sécurité des mineurs qui utilisent régulièrement l'application. Enfin, c'est le but premier de Wattpad qui pose question. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Effectivement, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'objectif de Wattpad est de renforcer le lien auteur-lecteur. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs modifient leur histoire au fur et à mesure qu'ils écrivent, pour ainsi se conformer à la demande du plus grand nombre.
Merci beaucoup Chloé. En effet, la question est importante. C'est pour ça que je t'ai réunie aujourd'hui avec Elisa pour débattre de ce sujet. C'est une petite question donc pour vous. Est-ce qu'avec l'augmentation du lien auteur-lecteur qu'on retrouve dans Wattpad, les lecteurs ont leur mot à dire sur l'intrigue ou sur sa construction de l'histoire ?
Pour ma part, je ne suis pas forcément pour l'influence des lecteurs sur les œuvres, mais il m'a fallu quand même trouver quelques arguments en faveur de cela. Donc j'en ai trouvé certains, c'est surtout que certains lecteurs, enfin évidemment ça dépend desquels, mais ont un avis vraiment construit et peuvent permettre de donner des retours vraiment bien vraiment concret, ce qui peut permettre potentiellement à l'auteur de s'en inspirer et d'améliorer ses créations au fur et à mesure et donc d'ajuster les styles ou de clarifier certains aspects pour mieux répondre aux attentes. Et il ne faut pas oublier que la lecture maintenant c'est aussi commercial et évidemment le lecteur, pour l'auteur c'est nécessaire de faire du chiffre d'affaires comme toujours et donc pour ça de s'inspirer des attentes des lecteurs.
Vous êtes en train de me dire que les auteurs ne sont pas des vieux dans des cabinets mal éclairés qui écrivent que pour le plaisir ?
Non, Ethan, ce ne sont pas que des vieux qui sont dans un cabinet renfermé, qui sans la moisissure, parce qu'ils sont là depuis des plombes. Ne t'en fais pas.
Maintenant, au final, on n'est plus vraiment uniquement sur les stéréotypes des vieux auteurs qui pleurent la mort de leur fille, qui s'est noyée ou je ne sais quoi. Maintenant, avec les applications...
Oh, la référence simple.
Maintenant, avec les applications comme Wattpad et Webtoon, c'est facile d'écrire soi-même en ligne et donc, comme le disait Chloé, des histoires pas forcément bien construites.
Merci Elisa. Je pense que Madame Romain a fait la crise cardiaque maintenant. Alors, du coup, deuxième petite question et je vais joindre Soline à notre débat. Allons plus loin. Est-ce qu'on peut considérer que le lecteur devient un auteur par procuration ou un co-auteur ?
Alors, moi, je pense pas, parce que le plaisir de la lecture, c'est aussi découvrir l'histoire et finalement pas s'y attendre, ou à la limite juste lire la quatrième de couverture. Mais si le lecteur se met à écrire l'histoire, il n'y a plus de suspense. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre avec un personnage qui meurt au milieu du livre. Ok, on n'est pas content qu'il meure, mais finalement, on ne s'y attendait pas et c'est ce qui crée le plaisir de lire le livre. Donc... pour moi, le lecteur, ça reste le lecteur et c'est pas lui qui devrait écrire le livre parce que sinon il n'y a plus de suspense et ça n'a plus d'intérêt en fait.
Personnellement, moi, je pense que en fait, quand on prend un livre, quand on lit un livre d'un auteur, en fait, on ne s'attend pas à quelque chose en particulier. En fait, c'est vraiment comme dit Céline, c'est vraiment on veut avoir des émotions, on veut avoir du retournement de situation, etc. Si on sait ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe dans notre imagination. Le soir, avant d'aller se coucher, on s'invente une petite histoire. Et là, là on est un auteur parce que là, nous, on sait ce qui se passe. Mais quand on achète un livre, notre but, c'est d'être surpris, c'est de vivre des émotions. Et on ne peut pas les vivre si on sait ce qui se passe.
Sinon, pourquoi acheter un livre ?
Ethan, tu nous épuises. Mais du coup, par rapport à la question, moi, je voulais dire que, pour ma part, moi, j'achète un livre pour que ce soit l'auteur qui l'écrive, parce que l'auteur a une écriture, a une façon d'écrire qui te donne envie de lire. Et forcément, si c'est les lecteurs qui se mettent à écrire avec l'auteur, on n'a pas la même écriture, on n'a pas les mêmes choses. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, Soline, en fin de compte, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de... On sait, donc c'est plus intéressant, en fin de compte, de lire.
Pourtant, il faut savoir que sur les plateformes de lecture communautaire, il y a plus de 90 millions de membres à chaque fois qui participent activement à des discussions et à des critiques à propos des livres qu'ils ont lus et qui discutent donc avec les auteurs, ce qui peut évidemment influencer ces derniers. Et il faut également savoir que, d'après une étude menée par une association dont j'arrive pas à prononcer le nom, 40% des lecteurs ont acheté un livre après avoir interagi avec l'auteur et après donc ils ont souvent été spoilés de la fin et pourtant ils achètent ce livre parce que juste peut-être pour la simple et bonne raison qu'ils l'ont dans leur bibliothèque maintenant.
Moi je voulais revenir sur ce que tu as dit Amandine, c'est vrai que s'il y a plusieurs personnes qui participent à l'écriture d'un livre, en fait il y a plus de style dans ce livre et donc pareil, il y a plus, on peut pas savoir si finalement on aime ou pas parce que c'est plein de styles qui sont mélangés. Et ça brouille un peu la vie qu'on peut s'en faire.
Alors, ne faites pas la crise cardiaque, s'il vous plaît. Mais moi, quand j'achète un livre, je lis toujours la dernière page. Je vois le chapitre si vraiment la dernière page m'intéresse. Et du coup, je remonte au dernier chapitre. Donc, en fin de compte, je me fais spoiler la fin, mais ça me dérange pas. Hein.
Lire qu'une page. Tiens, c'est intéressant, j'essaierai.
Alors, moi, personnellement, quand j'achète un livre... quand je suis à la moitié du livre et que je commence à me dire j'ai lu 200 pages, ah, il m'en reste encore 300, bon, qu'est-ce que je fais ? Souvent je vais lire la dernière page du livre, alors des fois la dernière phrase ne m'apporte strictement rien, donc je me dis bon bah il m'en reste 300 puis voilà. Puis des fois il arrive que l'histoire se termine par elle est morte, adieu perdicant, et référence à notre cher livre de français du bac de cette année. Et donc du coup là je me dis ah ok, et en fait moi je trouve que aussi du coup s'auto-spoiler des fois en fait ça permet aussi de continuer la lecture, mais je pense que c'est à nous de s'auto-spoiler de manière individuelle et c'est pas une obligation qu'on doit faire subir entre guillemets à tout un panel de lecteurs.
C'est bien vrai, mais pour vous les filles j'ai une dernière question. Cette pratique met-elle en danger la plume de l'auteur alors que celle-ci est déjà mise en danger à cause de l'IA ?
Pas forcément, enfin... Évidemment, l'IA, c'est pas... Enfin, les auteurs s'en servent pas forcément à bon escient non plus, mais ils s'en servent comme ils le souhaitent. Et, enfin, alors que quand ce sont d'autres... Enfin, ce sont des lecteurs. Les lecteurs, au moins, eux, ils ont... Enfin, je veux dire, ils ont une conscience, et donc ça peut aussi leur permettre d'amener quelque chose de plus consistant à l'auteur. Et il y a d'ailleurs d'autres auteurs comme J.K. Rowling, qui a... affirmé qu'après avoir lu les retours de ses lecteurs, elle a senti une réelle amélioration de son ouvrage, notamment parce qu'elle a pu affiner ou ajuster, ajouter des précisions et des choses comme ça.
Moi, personnellement, je pense que la plume de l'auteur est un danger, parce que pour moi, en fait, être auteur, c'est un vrai métier, c'est une vraie capacité, en fait. C'est une capacité à créer un univers, à s'imaginer dans cet univers. Enfin, c'est comme on ne devient pas trapéziste du jour au lendemain, on n'est pas auteur comme ça du jour au lendemain. Et le fait que des lecteurs, donc en fait des personnes banales, entre guillemets, qui n'ont pas forcément cette qualité, interagissent avec l'auteur, pour moi, l'auteur, du coup, il perd toute son authenticité. Et c'est là qu'en fait, c'est un danger. Alors après que les auteurs lisent les commentaires après pour modifier, etc., je peux l'entendre. Mais qu'au fil de l'écriture de l'histoire, des auteurs fassent ce que les lecteurs disent pour avoir plus de chiffre d'affaires, ben en fait, on perd toute la qualité du métier en fait, qu'ils exercent et toute la beauté de ce qu'ils font, en fait.
Moi, je pense que pour écrire un livre, il faut déjà avoir une idée de... peut-être pas de comment il va se finir, mais de ce que ça va raconter. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Chloé, que lire le retour des lecteurs à la fin, je pense que ça peut vraiment faire progresser et pas s'adapter, mais faire, peut-être modifier quelques petites choses qui peuvent un petit peu augmenter les ventes. Mais pour moi, une histoire, ça se construit avant de commencer à écrire. C'est, faut faire un brouillon, quoi. C'est comme en français. Donc, voilà.
Jacadi. C'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
En fin de compte, Wattpad est un partage d'imaginaire. On peut dire la même chose des jeux de rôle. À vous, Camille et Eleanor.
Bonjour à tous. En effet, dans le cadre du partage de l'imaginaire, nous allons parler de l'importance de la lecture dans les jeux de rôle. Nous allons d'abord définir ce que c'est les jeux de rôle. Les jeux de rôle sont des jeux de société où les joueurs interprètent différents personnages et créent une histoire ensemble en faisant par exemple des dialogues improvisés ou encore des actions physiques. Leurs actions et prises de décision impactent le déroulement de cette histoire et le développement de leurs personnages.
Aujourd'hui, nous allons surtout parler de Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus connu. Dans celui-ci, les joueurs sont accompagnés par un maître du jeu qui sert de narrateur et de guide pour les joueurs. Pour construire une partie de D&D, Donjons et Dragons, le maître du jeu assiste les joueurs et peut utiliser des livres et des manuels.
Ok les filles, mais du coup j'ai une petite question. Les livres de jeux de rôle sont-ils des manuels de jeux classiques ?
En partie. Par exemple, le manuel des joueurs accompagne les joueurs tout le long de la création de leur personnage, avec leurs statistiques, race, classe et origine. Mais les règles de plateau sont incluses dans le manuel du maître du jeu, ainsi que des conseils de narration. Donc, les règles peuvent être morcelées dans des livres différents pour des rôles précis.
Ok, mais y a-t-il des types de livres en dehors de ceux qui permettent de connaître le jeu ?
Oui, il y a des livres de scénario déjà écrits pour initier aux joueurs amateurs, comme des livres qui nous permettent de découvrir de nombreux univers pour créer et aligner notre propre histoire, comme ceux donnant les statistiques de nouvelles créatures ou de caractéristiques de nouveaux mondes.
Du coup, Hasbro est-il le seul fournisseur de ce type de livres ?
Non. D'anciens rôlistes ont décidé de partager leur monde avec de nombreux internautes en ajoutant des créatures d'autres folklores ou inspirées de jeux vidéo ou d'autres franchises comme des films ou des livres. C'est ce qu'on appelle le homebrew, soit le fait main.
Est-ce que ces livres ne sont que accessibles en format papier ?
Non, il existe le site D&D Beyond depuis 2017, qui est la version numérique des manuels, qui a permis de rendre le jeu accessible à plus de personnes à travers le monde. Mais avoir la version physique ne vous garantira pas la version numérique gratuite, mais vous aurez une réduction.
D'accord, donc la lecture de ces livres est-elle exclusivement liée à l'apprentissage du jeu ?
Non. Pour ma part, j'apprécie la lecture des manuels de par leurs magnifiques illustrations, riches descriptions, qui nous y submergent dans des mondes imaginaires bien pensés et divertissants. Dû au plaisir qu'on a à lire ces livres, beaucoup veulent étendre leur bibliothèque. Pour ma part, j'aimerais avoir le Dragonomicon et le Practically Complete Guide to Dragons. Et toi Camille ?
Pour ma part, j'ai comme souhait d'acheter le manuel des monstres du multivers, ainsi que les nouvelles éditions 2025 des manuels essentiels au jeu.
Quelle est la vraie utilité de la lecture dans les jeux de rôle ?
Elle aide surtout à la création, permettant aux joueurs de se mettre dans leur personnage comme un acteur en connaissant bien son matériel, comprenant les règles et créant une communauté de fans rôlistes, soudés et ouverts aux projets des autres.
Merci beaucoup les filles. Il est l'heure de faire une petite pause musique avec J'aime lire d'Albin de la Simone.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain, pourtant tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire. la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime
J'aime lire d'Albin de la Simone. Nous venons donc de voir différentes pratiques de lecture, mille et une pratiques de lecture qui sont très contemporaines et qui ne correspondent pas à l'attitude du papier comme le croient encore les professeurs de lettres. Nous abordons le deuxième thème de notre émission. Nous allons parler de dystopie et réalité. Nous commençons par Elisa qui va nous parler de sa lecture de Colette.
Bonjour à tous. Avant de commencer cette chronique qui j'espère vous plaira, je voudrais vous présenter Sandrine Colette. Une romancière contemporaine, autrice de 8 superbes polars, tous récompensés de divers prix littéraires et tous plus beaux les uns que les autres. Mais bref, commençons. Les vieilles l'avaient dit, elle qui voyait tout. Une vie qui commençait comme ça, ça ne pouvait rien donner de bon. Ainsi commence une hypothypose poignante, une réelle dystopie bouleversante d'humanité, un opéra grandiose. Ainsi commence un roman de Sandrine Colette, récompensé au printemps 2020 du Grand Prix RTL Lire, du prix de la Closerie des Lilas, du prix du livre France Bleu Page des libraires et enfin du prix Amerigo Vespucci. Ainsi commence le roman que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et toujours les forêts. D'habitude, je vous dirais qu'un livre ne peut pas être exceptionnel, car chacun est unique. Chacun apporte son lot d'images, de sensations, de révélations, mais là, c'est d'habitude. Car au final, tous les livres sont égaux, certes, mais certains sont plus égaux que d'autres, et je pense que c'est le cas de celui-ci. Après avoir refermé ce livre, j'ai eu l'impression de ressortir d'une plongée onirique dans un monde assez spécial. Spécial tout d'abord par sa nature. Il s'agit en effet d'un monde post-apocalyptique où, par une belle nuit de printemps, tout a implosé. Depuis, le monde est recouvert d'une épaisse couche de cendres qui empêche toute vie, et donc tout bruit ou presque. Ainsi, ma lecture s'est apparentée à un voyage en apnée dans un film muet et monochrome. Je vous assure que c'est très déstabilisant. Néanmoins, et toujours les forêts se distinguent également par ses personnages, tous plus marginaux les uns que les autres. Pour commencer, on suit le périple de Corentin, un miraculé guidé par l'espoir insensé de retrouver les forêts, le monde qu'il a vu grandir, et la vieille Augustine, la femme qu'il a élevée. En effet, dès son plus jeune âge, Corentin est ballotté de foyer en maison d'accueil jusqu'à ce que sa mère l'abandonne à Augustine, sa grand-mère paternelle. Au cours de son odyssée, entre la grande ville et les forêts, il rencontre des compagnons de route qui resteront plus ou moins longtemps à ses côtés. C'est de cette façon qu'il recueille l'aveugle, un jeune chiot fidèle qui l'accompagne tout au long de sa quête obsessionnelle de vie. Porté par la certitude que rien ne s'arrête vraiment jamais complètement, Corentin tente, tant bien que mal, de réparer le monde. Et cela commence par devenir père, au détriment de la vie de la mère. Cette dernière s'appelle Mathilde. Elle aussi en a réchappé de justesse. Elle a vécu toute sa vie aux forêts, s'y est mariée et y est devenue mère pour la première fois d'un petit garçon. Néanmoins, tous ceux qu'elle aimait sont morts pendant la catastrophe. Et elle regrette d'être encore en vie, elle. Bon. Alors certes, c'est possible que je m'enfonce quelque peu dans le pathos, mais c'est ainsi qu'a écrit le roman, car oui, c'est sa seconde spécificité. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, sa sublime narration provient en grande partie de ses paragraphes. Tous très courts, concis et succincts, ces derniers, pleins de retours à la ligne, amènent une lecture hachée, brutale et froide, qui détonne avec l'urgence de lire. Alors que le lecteur se presse et s'empresse de continuer, à l'instar de Corentin, les mots s'enchaînent et se rompent, les phrases se suivent et tombent, délétères. Pourtant, la suite arrive toujours, pernicieuse au possible, jusqu'à la fin. Jusqu'au départ de la famille, vers un éventuel Eldorado, là-bas, vers l'ouest. Ainsi, et toujours les forêts, est une fable merveilleuse et moralisatrice que l'on espère évidemment non prophétique, mais qui sonne le glas de l'innocence, tout en restant un refuge pour quiconque souhaiterait s'exiler, s'inspirer ou juste rêver.
Qu'est-ce que c'est bien dit ? J'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'est bien dit ? On est d'accord, on parle d'un quartier d'habitation qui s'appelle les forêts.
Ethan, cultive-toi, s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas toujours tout te traduire. Hein. C'est pas possible. Arrive à un stade, on va dire à Madame Romain qu'elle te donne plus de livres à lire. Alors, merci Elisa. Le livre dont tu nous as parlé correspond à un monde matériellement détruit. C'est déjà assez tragique, je dois l'avouer. Mais poussons encore un peu avec deux autres chroniques où le scénario est encore pire. C'est un monde sans livres. Vous vous rendez compte quand même. Toi, Ethan, je sais que non.
Oh, une perte.
Je sais que non.
Si, si, la lecture, c'est une industrie. Vous pensez au nombre de personnes au chômage si on arrête de vous fabriquer vos livres ?
Oui, pas de souci, Ethan. Si tu lisais, tu comprendrais pourquoi c'est si important. C'est au tour donc de Maureen, puis de Titouan. Mais laissons d'abord la parole à Maureen.
Fahrenheit 451 est un roman dystopique publié par l'écrivain américain Ray Bradbury en 1953. L'histoire parle d'une société future où un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, car la détention en est interdite pour le bien collectif. Cependant, un jour, le pompier Montag rencontre sa voisine qui rêve d'une autre société. Il se met alors à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la lecture ni l'imaginaire. Il devient alors un dangereux criminel qui se fait impitoyablement poursuivre par une société qui rejette son passé. Le livre est composé de trois parties distinctes. Une sur la prise de conscience, la dictature dans laquelle Montag vit, suivi de son combat contre celle-ci, pour finir avec la résolution en demi-teinte, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas gagné non plus. Revenons au personnage de Montag. C'est un pompier chargé de brûler les livres chez les particuliers. Cependant, c'est à contre-cœur qu'il accomplit sa mission. Dans ce roman, l'auteur veut montrer que si nous interdisons la lecture, autrement dit la littérature, nous détruisons un savoir et le passé. C'est une atteinte à l'apprentissage et à l'imaginaire. Dans l'intrigue, des gens décident d'apprendre par cœur les ouvrages interdits, pour ensuite les raconter et faire diffuser ce savoir. Néanmoins, cette histoire pourrait être celle d'un futur proche. Par exemple, certains livres ont déjà été censurés aux États-Unis, dans les bibliothèques, comme dans les écoles. Notamment les livres abordant les thèmes comme la sexualité, l'identité de genre, ou encore tous les livres mettant en avant des personnages de couleur. Déjà près de 10 000 livres ont été censurés, comme « Les raisins de la colère » de John Steinbeck, « Qui es-tu Alaska » de John Green, « La servante écarlate » de Margaret Atwood, ou encore le livre dont je vous parle actuellement. Le roman s'intitule « Fahrenheit 451 », car d'après Ray Bradbury, c'est la chaleur à laquelle un livre se consume. À sa sortie, cet ouvrage fut critiqué à cause de la dérive de la démocratie qu'il montrait. À présent, il est salué au plan international. Pourvu qu'à l'avenir, nous n'ayons pas besoin d'apprendre les livres par cœur pour faire continuer de vivre le passé, le présent et le futur. Pour les personnes qui n'aiment pas la lecture, mais qui sont intéressées par ce livre, vous pouvez le retrouver en film dans la réalisation de François Truffaut en 1966 et la version de 2018 par Ramin Banrani. Mais je vous conseillerais plutôt de le lire, évidemment. C'est un cadeau pour vous, chers auditeurs. Sarah va vous lire un petit extrait.
Montag, il sursauta. Ne restez pas là, idiot. Les livres gisaient comme des morceaux de poisson mis à sécher. Les hommes dansaient, glissaient et tombaient dessus. Des titres dardés, leurs yeux d'or s'éteignaient, disparaissaient. Pétrole ! Ils se mirent à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451, fixé à leur épaule. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toutes les pièces. Ils se précipitèrent en bas, Montag titubant à leur suite dans les vapeurs de pétrole. En route, la femme. Agenouillée au milieu des livres, elle caressait le cuir et le carton détrempés, lisait les titres dorés du bout des doigts, tandis que ses yeux accusaient Montag. « Vous n'aurez jamais mes livres, » dit-elle. « Vous connaissez la loi, » énonça Beatty. « Qu'avez-vous fait de votre bon sens ? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes restés des années enfermés ici en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc. Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous. » Elle secoua la tête.
Merci beaucoup Maureen. Passons tout de suite à Titouan qui va nous expliquer le livre 1984.
J'ai choisi de faire ces chroniques parce que c'est vrai que depuis l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis au début de l'année, il y a beaucoup d'éléments de son programme qui font penser vraiment à une véritable dystopie. Donc j'ai relu il y a peu pour cette chronique le roman 1984 de George Orwell qui est en elle-même une dystopie, imaginant un système dans lequel tous les citoyens sont surveillés, où chacun des individus est contrôlé, et dans lequel aucune pensée contraire au régime du dirigeant Big Brother n'est autorisée. Et ce qui m'a frappé en relisant le livre d'Orwell, c'est à quel point il fait terriblement penser sur bien des points à ce qui se passe en ce moment aux USA. Sur la désinformation d'abord. Au début de l'année, l'administration Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que la ville de Philadelphie n'avait connu aucun crime depuis l'expulsion d'un nombre massif de migrants. Une information bien sûr totalement fausse, et démentie dans les commentaires du poste par les officiers des forces de l'ordre de la ville, mais qui a malgré tout fait son chemin. Dans le roman d'Orwell, on voit ainsi le système de Big Brother faire de la désinformation similaire. Un jour, le pays est en guerre contre le pays d'Océania, et l'Eurasie est leur allié. Le lendemain, tous les médias disent que c'est l'inverse, et que ça a toujours été l'inverse. 1984 donne également l'impression d'un système dans lequel il est nécessaire d'empêcher les gens de réfléchir à tout ce qui se passe dans leur pays. Ça se traduit également par le crime pense, soit le crime tout simplement de penser. Aux États-Unis, ce genre de choses s'observe en fait de plus en plus fréquemment. Par exemple, récemment, le gouvernement américain a interdit aux entreprises, si elles souhaitent travailler avec le gouvernement, de faire une politique d'inclusion dans n'importe quel pays du monde. Il y a eu une interdiction de l'évocation de la théorie des genres dans l'école, le bannissement d'un certain nombre d'ouvrages des bibliothèques scolaires, dont certaines dystopies dont Maureen a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Et tout est fait pour que les gens ne puissent pas véritablement réfléchir à ce qui leur arrive et à ce qui arrive à leur pays.
Au nom de Big Brother, une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Syme, néanmoins, perçut immédiatement un certain manque d'enthousiasme. « Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston, » dit-il presque tristement. « Mais quand vous écrivez, vous pensez en ancilangue. J'ai lu quelques-uns des articles que vous écrivez parfois dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que le novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année ? » Winston ignorait naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait, car il n'osait se risquer à parler. Syme prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour s'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot, dont le sens sera déjà délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et déjà oubliées. Déjà, dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi ne serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. »
Comme vous l'aurez compris, c'était donc un extrait de 1984. La réalité dépasse parfois la fiction. C'est exactement ce que nous voyons avec la disparition de certains mots sous Donald Trump. Je vous laisse donc, avec Ethan et Soline, nous en dire davantage.
Accessible, antiraciste, LGBT, discrimination, équité, santé mentale, sexe, minorité, qualité environnementale, justice sociale.
Voici quelques termes que Donald Trump a fait interdire dans les différentes administrations ou organismes publics américains. Depuis le début de son mandat, le président américain entame une campagne de lutte contre le wokisme qui au départ se bat contre toute forme de discrimination. Cependant, le mot wokisme est aujourd'hui utilisé à outrance pour discréditer les adversaires politiques du président américain et de son parti. La politique de Donald Trump s'inscrit dans cette ligne et passe par un appauvrissement forcé de la langue américaine.
cette croisade intellectuelle du président américain avait déjà commencé lors de son premier mandat en 2017, avec par exemple la suppression de nombreuses références en lien avec le réchauffement climatique sur les sites gouvernementaux. Cette censure intellectuelle s'est intensifiée depuis son investiture il y a quelques mois, avec l'interdiction de l'usage de nombreux mots dans les articles scientifiques.
Oppression, prostituée, valoriser les diversités, race, gay, minorité hispanique.
L'administration Trump va jusqu'à menacer de couper les crédits aux laboratoires qui éditent des articles scientifiques contenant les mots interdits. De plus, depuis février 2025, la NSA, l'Agence américaine du renseignement, a entamé une campagne de suppression du contenu déjà existant sur tous les sites gouvernementaux.
Victime, justice raciale, activisme, discrimination fondée sur l'âge.
Cette épuration linguistique touche aussi l'éducation. En effet, Donald Trump a fait supprimer de nombreux ouvrages scolaires et annuler plusieurs commandes.
Golfe du Mexique, historiquement, égalité, discriminatoire.
Enfin, ce contrôle de la langue touche directement la culture, car l'administration de Trump a d'ores et déjà supprimé plus de 10 000 livres qui ne franchiront jamais les portes des écoles américaines. En parlant d'école, ces mots sont aussi interdits dans les manuels scolaires, ce qui achève la destruction de l'éducation en empêchant les futures générations de s'instruire de manière objective et les faisant grandir avec des informations biaisées dès leur plus jeune âge.
Femmes, disparités, personnes de couleur, militants.
Cette chronique a été réalisée par Ethan qui a un peu trop peur du micro pour la lire avec l'aide d'Aidem. Merci pour votre écoute.
Merci Ethan et Soline, mais faisons une petite pause musicale après cette lourde chronique.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Qui résiste, même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
Light and oh
abordons désormais notre troisième thème, encore au croisement entre la réalité et la fiction. Je vous laisse avec Eva, Maureen et Sarah, qui sont de grandes lectrices de romans historiques.
Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, la lecture de livres historiques demeure essentielle. Des ouvrages tels qu'Au nom de tous les miens de Martin Gray, souvent négligés au profit de récits en vogue, nous offrent un aperçu précieux des événements, des cultures et des sociétés qui ont façonné notre pays et notre monde. Lire l'histoire, c'est bien plus que connaître des dates ou des faits. C'est comprendre les causes et les conséquences des actions humaines. Des livres historiques comme Orage d'acier d'Ernst Jünger et Les Croix de bois de Roland d'Orgelès nous permettent d'explorer les mentalités, les luttes et les aspirations des générations passées. Ils nous aident à développer notre esprit critique en confrontant les différentes interprétations des événements. De plus, la lecture d'histoires de civilisations anciennes ou de conflits marquants nous rappelle les leçons du passé. Dans une époque où les erreurs semblent se répéter, cet apprentissage devient crucial. Les livres historiques nous invitent à réfléchir sur nos valeurs, nos choix et l'avenir que nous construirons. Enfin, la littérature historique est une source d'inspiration. Elle nous plonge dans les récits de courage, de résilience et d'innovation, comme dans « Si c'est un homme » de Primo Levi et le journal d'Anne Frank. Ces récits peuvent nourrir notre propre parcours, nous incitant à agir et à contribuer positivement à notre société. En somme, lire des livres historiques est une porte ouverte sur le passé, un outil pour mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. Dans un monde en constante évolution, il est vital de ne pas oublier d'où nous venons. Alors prenons le temps de tourner les pages de l'histoire et d'enrichir notre compréhension du monde. Tout de suite, un extrait du livre « Au nom de tous les miens » de Martin Gray, lu par Maureen.
J'agis, je vais, je dis. Cette longue histoire, ma vie. Quand je me regarde, je me répète. Pourquoi ? Mais je veux encore dire, encore continuer, être fidèle. Vivre jusqu'au bout est un jour, si vit le temps. Donner à nouveau la vie pour rendre ma mort, la mort des miens, impossible. Pour que toujours, tant que dureront les hommes, il y ait l'un d'eux qui parle et qui témoigne au nom de tous les miens.
Lire des romans historiques sur son pays et son histoire est très intéressant, mais nous pouvons autant lire l'histoire d'autres pays. Pour ma part, je lis des romans historiques sur l'Angleterre, comme par exemple Reine de sang de Philippa Gregory aux éditions Hauteville, ayant remporté le prix du meilleur roman historique 2020. Le roman parle de trois sœurs, des trois sœurs Grey, Jane, Marie et Catherine, qui deviendront reines chacune leur tour avant que leur cousine ne décide de reprendre la couronne en modifiant le destin de chacune. Que chacune des trois sœurs espérait, et va vous lire un extrait de Reine de sang.
On a déjà placé le bandeau devant mes yeux avant que j'aie pu contempler une dernière fois les mouettes. J'ai voulu regarder encore les nuages, avoir le ciel pour l'ultime vision de ce monde, mais voilà que subitement, je ne vois plus que la blancheur aveuglante du bandeau sur mes yeux en plein jour. C'est alors que quelqu'un me prend les mains et les place sur le billot. Ces morceaux de bois durs et anguleux me font comprendre que mon sort est scellé. Je me rends compte que c'est aussi la dernière chose que je toucherai de ma vie. Je m'y agrippe et je sens les veines du bois. Il me faut à présent poser la tête dessus. Je remarque que le bandeau est imbibé de mes larmes qui s'échappent doucement de mon corps, de mes paupières, closes en une coulée brûlante. Je pleure toutes les larmes de mon corps, mais au moins personne ne peut les voir. Et quoi qu'il advienne, je sais que ce ne sera pas la fin, car je suis éternelle.
On peut aussi parler de la saga Les Reines Maudites d'Alison Weir, qui comporte 6 livres, chacun parlant des 6 femmes d'Henri VIII lorsqu'il était roi. Son premier tome, Catherine d'Aragon.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Continuons avec la quatrième partie de notre émission. L'accès aux livres ou comment faire face à une offre toujours grandissante des titres. Alors Elisa, comment vis-tu cette surconsommation de livres ?
Tous les ans, plus de 100 000 livres sont publiés rien qu'en France. 100 000, alors que les Français les plus assidus n'en lisent même pas 100 chaque année. En apprenant cela, une question m'est venue à l'esprit. Comment choisir ? Comment décider quels seront les heureux élus ? Ou diriger notre attention dans ce labyrinthe de possibilités ? Quel conseil croire parmi le flux incessant d'informations qui nous submerge constamment ? Eh bien, c'est à ces questions que je vais tenter de répondre, à mon échelle du moins. Tout d'abord, sachez que, depuis toute petite, Je lis un peu de tout. Et pour cela, rien de plus simple, je passe mon temps à taxer mon entourage. Lycée, famille, amis, tous y sont passés un jour ou l'autre, sans même que j'ai forcément à quémander d'ailleurs. Plutôt pratique. Néanmoins, en parallèle de ce flux perpétuel, j'aime me tenir au courant des dernières publications. Et c'est là que les vrais problèmes arrivent. En effet, il existe une infinité de sites littéraires tels que Tamaculture, Actualité, Biblioblog, Booknode, Babelio et bien d'autres que je ne connais évidemment pas. Et c'est sans compter les nombreux forums et chaînes qui voient sans arrêt le jour sur les réseaux sociaux. Alors vers quoi se diriger ? Personnellement, je m'en tiens aux classiques avec notamment les conseils de mes proches, mes propres expériences et la chronique France Inter, Le Polar sonne toujours deux fois de Michel Abesca. Certes, c'est un peu vieux jeu, mais je vous assure que j'ai découvert d'incroyables chefs-d'œuvre, policiers évidemment, tels que Les Saules de Mathilde Bosseau. Dans ce roman noir à huis clos, le lecteur est tapé dans un terrible meurtre dont l'enquête est sans cesse ralentie par les non-dits et les nombreuses scissions qui scindent le petit hameau breton en deux, entre la basse et la haute motte. Je vous recommande donc très vivement ce livre avec son ambiance si particulière que je vous laisse découvrir. Toutefois, j'ai aussi de nombreux amis qui agrémentent leur pile de livres à lire au fur et à mesure de leur déambulation sur Internet. En effet, de nombreuses chaînes aux noms plus ou moins significatifs, telles que Bookstop, Entre Lumière et Tombe, ou encore Jules comme César, postent des avis, des résumés, voire des citations et font l'éloge de tel ou tel livre ou tel auteur. D'autres lecteurs font selon leur inspiration du moment et vont tout simplement fureter dans les étagères des libraires ou des bibliothécaires près de chez eux. Dès lors, ils choisissent les livres selon leur couverture la plupart du temps et le résumé si, par tout hasard, un doute subsiste. Le tout sans prendre la peine d'écouter des avis extérieurs, si ce n'est celui très matérialiste de leur portefeuille. Et encore, c'est pas toujours le cas. Enfin, avec la naissance des influenceurs bien-être, on assiste aussi à la démocratisation des livres de développement personnel, tels que « L'ego et l'ennemi » de Ryan Holiday, ou bien même « Good Life for Life » de Vex King. Les livres d'apprentissage et de marketing sont également en vogue avec des ouvrages comme « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel, ou bien « Penser comme un millionnaire » de Dean Graziosi, un best-seller vendu à plus de 300 000 exemplaires. Tous ces livres qui pullulent sur le marché douteux du bien-être se veulent être les clés de la réussite, de la richesse, du bonheur et de la confiance en soi, mais attention tout de même, certains font plus que de mal de bien, alors parfois il vaut sûrement mieux une bonne fiction qu'un livre trop complexe. Ainsi, il existe mille et une façons de définir quel sera le prochain à avoir l'honneur d'être choisi, même parmi l'infinité des choix qui s'offrent à nous. Que ça soit pour son aspect en terrible objet de consommation ou pour son contenu, quel qu'il soit, les livres sont dans presque toutes les mains de sublimes objets de respect et d'admiration et on espère tous qu'ils le resteront pour de nombreuses années encore.
Waouh ! Merci Elisa. Bien sûr, acheter des livres, ça coûte cher. Et c'était nettement plus simple avec le Pass Culture. Sarah, peux-tu nous en dire un peu plus ?
Oh, c'est juste une réorganisation budgétaire, on va pas en y passer 10 minutes.
Le Pass Culture, avant sa réforme du 27 février 2025 par la ministre de la Culture, Mme Rachida Dati, offrait aux jeunes de 15 ans un montant de 20 euros, 30 euros à 16 ans, à 17 ans 50 euros et enfin à 18 ans 300 euros. Depuis la réforme, l'État n'aide plus les jeunes lecteurs. Ils doivent attendre 17 ans pour avoir 50 euros et 18 ans pour 150 euros, une diminution de 50%. Autant dire que le panier de livres a réduit lui aussi de plus de moitié. En tant que lecteur, on peut être déçu, voire même énervé de voir qu'on nous retire le Pass Culture, suite à cette réforme. Certaines personnes diront que ce n'est que 20 euros à 15 ans et 30 euros de plus à 16 ans, mais pour les lecteurs, cette réalité est tout autre. Même si la somme n'était pas très élevée, cela nous permettait d'acheter un livre au format broché, un grand format qui coûte aux alentours de 20 euros, ou deux poches, environ 9 euros le poche. Puis à 18 ans, avec les 300 euros, cela permettait de se faire plaisir avec des achats de livres plus importants. Pour vous montrer cette différence, voici d'abord un début de panier pour la somme de 300 euros et ensuite un panier pour 150. Avec 300 euros, nous pourrions acheter 19 poches et 8 brochets, soit un total de 27 livres dont, par exemple, Darling Venom de Parker C. Huntington, Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, les 4 tomes de la saga Compass de Brittany C. Sherrill, Motor Trouble de Delphine Audrey, Pine Lake Resort de Phoenix Asher, Le jeu des menteurs d'Anita Riggins, Un Happy New Year de Delinda Dane. Et encore, ce n'est que le début de ma liste. Vous voyez, de tout ce
Vous voyez le début de tout ce que l'on peut prendre pour 300 euros. Maintenant, avec 150 euros, on passe de 27 livres à 7 brochets et 3 poches. Voilà, c'est mathématique, l'État économise sur la culture. Du point de vue scolaire, c'est aussi embêtant puisque même au lycée, on nous demande d'acheter des livres. Bien que les professeurs fassent aussi bien qu'ils le peuvent pour sélectionner des livres peu coûteux, cela reste cher. L'État, quant à lui, continue à dire que les jeunes ne se cultivent pas et ne lisent plus, qu'ils passent leur temps sur leur portable mais leur supprime leur seule aide pour accéder aux livres. Toutes les familles n'ont pas forcément les moyens de payer des livres à leurs enfants dès qu'ils le souhaitent. Passons au point de vue d'autres lecteurs. Que pensez-vous de cette réforme ?
Alors, je n'ai pas d'argent de poche, donc je peux rarement m'acheter des livres. Le Pass Culture m'a permis de m'acheter 3 livres et seulement maintenant, il faut que je demande à mes parents pour qu'ils puissent m'en acheter.
Honnêtement, sur le Pass Culture, j'ai été chanceuse, j'ai pu avoir mes 300 euros. Donc je dois vous avouer que je n'ai pas à me plaindre sur ça, mais honnêtement, quand j'ai entendu la réforme, j'étais vraiment dégoûtée pour ceux en fait, qui allaient avoir que 150 euros. Parce qu'en
réorganisation compte... budgétaire.
Mais tu ne lis pas, on n'en a rien à faire que tu penses que c'est une réorientation budgétaire. Tu lirais encore.
Alors moi, je pense que franchement, on ne peut pas se plaindre que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture si on les bride en fait. Il s'avère que le Pass Culture, c'était la seule... aide de l'État qui était utilisée par les jeunes. C'était la seule action de l'État que les jeunes utilisaient. Et au-delà de livres à acheter, etc., avec le Pass Culture, on pouvait aller voir des concerts, on pouvait aller au théâtre, on pouvait aller dans des expositions, etc. Enfin, au-delà de la lecture, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire avec.
Bien dit. Arrêtez de dire qu'il n'y a que la lecture. Le Pass Culture pouvait faire énormément de choses.
Merci, Ethan. Mais... Donc voilà, la seule chose que les jeunes ont de l'État qu'ils utilisent, elle est bridée. Tout ça pour un réarmement militaire.
Je vais vous lire un texte qu'une amie à moi m'a écrite pour dire ce qu'elle pensait de la suppression du Pass Culture. Je trouve la suppression du Pass Culture dommage car prenons comme exemple les achats de livres au programme de l'année scolaire qui peuvent coûter parfois entre 5 et 10 euros. Cela peut paraître être une somme minime mais elle représente pourtant une assez grande somme pour certains, surtout en les accumulant. Le Pass Culture nous permettait de les acheter sans nous priver d'autre chose.
La solution, moins de livres scolaires.
Écoutez.
Écoutez.
C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Donc pour finir cette émission, parlons de la fête du livre. Vous cherchez à acquérir des livres neufs ou d'occasion à moindre coût, ce sera possible en mai avec la fête du livre. Raphaël et Maureen vont nous en dire un peu plus avec quelques autres candidats.
Alors la Galerne est une librairie du Havre qui se situe à proximité des docks. Donc la Galerne est constituée de 2 étages pour pouvoir contenter tout type de lecteurs avec différents thèmes comme littérature classique, historique ou autre. Les non-lecteurs aussi peuvent profiter de cette librairie car il est possible de se reposer sur différents canapés et de prendre un petit encas à la cafétéria.
Et oui, j'y ai trouvé mon compte parce que sachez qu'on m'y a emmené.
Je pense aussi que d'après moi, la Galerne est avant tout un endroit de repos et de tranquillité avant d'être une librairie. Et que si vous cherchez des livres à bas prix, voilà, venez à la fête du livre.
Ouais, en effet, je pense que c'est important de promouvoir la culture du livre, surtout quand on va à la Galerne, c'est vraiment le temple du livre de Madame Romain, clairement. Donc ouais, vraiment, d'autant plus d'avoir le club de football, la Galerne, c'est vraiment l'endroit idéal pour habiter au Havre. Franchement, j'ai pu parler avec des gens du Havre et vraiment, ils vont tout le temps là-bas, c'est des habitués, ils mangent là-bas, ils dorment là-bas. Et donc ouais, c'était vraiment super intéressant de les rencontrer. C'était une bonne expérience à faire.
Donc si j'ai bien compris, vous avez vraiment aimé la Galerne et c'est un peu comme votre deuxième maison.
Ouais, ils font bien le café.
Moi, personnellement, j'ai pas forcément adoré, comme Jules et Raphaël, la Galerne. Alors, j'adore les librairies, je suis une grande lectrice, pardon. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est les petites librairies un peu cosy, avec vraiment une ambiance... Alors que la Galerne, c'était des dizaines et des dizaines, enfin des milliers de titres en fait, mais de la moquette grise sur le sol et voilà. Enfin, moi je trouvais pas qu'il y avait la patte d'une librairie en fait. Mais après, ce que j'ai aimé aussi dans la Galerne, par contre, c'est qu'on pouvait trouver des livres qu'on trouve pas souvent dans les librairies parce que les librairies souvent, on a du policier, on a du fantasy, etc. Mais par exemple, j'ai trouvé des livres sur des philosophiques, en fait, des choses qu'en fait qu'on trouve pas en librairie basique. Donc je pense que la Galerne, c'est bien si on cherche un type spécifique de livre. Après, je pense que je préfère quand même aller dans les petites librairies.
Ah, on retourne sur les stéréotypes que vous combattez. La petite librairie mal éclairée, qui sent un peu le renfermé, mais avec du beau mobilier.
Ok, super Ethan. Mais pour revenir à Chloé, je pense que... Alors, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais je pense que Madame Romain a dû se tirer les cheveux avec le début de ta chronique, avec le début de ce que tu as dit. Même si, bon, la moquette grise, il faut s'avouer, c'est pas foufou non plus. Hein.
Librairie, bien meublée, ça sent l'enfermé, magnifique.
Mais c'est cocooning. Bah. C'est cocooning, faut pas cracher dessus, tu vas pas te plaindre, t'as pu avoir un café. Ethan, bah. Et on t'a emmené en plus.
Bah apparemment, ça a plu à certains, donc ça doit pas être si mal.
Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et après, je suis assez d'accord avec Chloé que c'est assez commercial. Et bah, par exemple, à Pont de Mer. Non, mais c'est vrai. Moi, je préfère aller à Millefeuille qu'aller à la Fnac à Pont de Mer parce que c'est très commercial. Il n'y a pas l'ambiance des habitués qui viennent là pour leurs habitudes. Enfin, moi, je suis d'accord avec Chloé, je partage son...
Stéréotype.
Bah, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment dans la librairie, on peut aller voir le libraire et il va nous dire « Ah oui, lui, je l'ai lu, ce livre, en fait. » Et donc, on va pouvoir avoir un avis parce que c'est un vrai métier de libraire. Alors que moi, je trouve que quand même, si on va à la FNAC et des trucs... on demande un livre, mais rares sont les personnes qui vont nous donner un vrai avis sur le livre, en fait. Alors que c'est ça aussi, c'est qu'il y a vraiment un contact entre le commerçant.
Bon, pour conclure, personnellement, bah, j'y suis allée aussi. Je suis d'accord avec les filles, l'ambiance, elle est moins particulière, moins intimiste peut-être qu'avec les petites librairies de... Enfin, voilà. Mais en attendant, on a quand même tous trouvé de super bons ouvrages. Et ça a été une sortie très productive, et franchement, on a hâte de pouvoir les vendre. Donc c'était vraiment, vraiment super bien, et merci à tous.
Même moi, j'ai trouvé un livre. J'ai vu un titre où il y avait deux mots, trois points, j'ai pris. Et si ?
C'est malheureusement la fin de cette émission, mais également de cette journée. Vous pouvez nous retrouver sur jacadie.org et sur 96.2 FM.
Ouais, d'accord. La journée, c'était très bien. L'émission lecture, plus difficile.
Marque-page, l'émission qui interroge notre rapport au livre et à la lecture.
Je tenais à remercier tous les intervenants, à Marc Page et surtout Madame Romain qui nous a aidés à préparer cette émission. Et enfin, un grand merci au travail de l'ombre. Je parle ici de la technique. Avec Aïs, Zoé, Jeanne et Luna.
Écoutez.
Pour finir, voilà, comme petit dernier mot, c'était deux bonnes émissions radio géniales et fantastiques avec une bonne ambiance. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres comme ça.
Jacques a dit. C'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont de Mer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadie.org.